Chapitre 5. Le comte de Grey Dick. 1. Plus que 23, pensait Roland ce soir-là, assis à l'arrière du Rocking Bee d'Eisenhart, à écouter les garçons crier et ôter aboyer. Au temps de Gilead, ce genre de galerie couverte située derrière le bâtiment principal, faisant face aux granges et aux champs, s'appelait la Galérienne. 23 jours avant l'arrivée des loups, et combien avant que Susanna mette bas? À ce sujet, une idée effroyable avait germé dans son esprit. Et si Mia, la nouvelle elle dans l'enveloppe corporelle de Susanna, devait donner naissance à son monstre le jour même de la venue des loups? Ça ne paraissait pas très probable, mais à en croire Susanna, la coïncidence, ça n'existait plus. Roland lui accordait crédit là-dessus. Certes, il ne disposait d'aucun moyen pour évaluer la période de gestation de cette chose. Même s'il s'était agi d'un enfant humain, la notion de 9 mois ne voulait plus dire grand-chose. Le temps s'était ramolli.
« Les garçons !»
aboya Eisenhart.
« Au nom de l'homme Jésus, qu'est-ce que je vais raconter à ma femme si vous vous broyez la carcasse en sautant de la grange ?»«
Tout va bien !» cria Benny Slightman.
« Andy ne nous laissera pas nous faire mal ?»
Pieds nus et vêtus d'une salopette de toile, le garçon se tenait dans l'ouverture du fenil, juste au-dessus de la poutre sur laquelle étaient gravées les lettres « Rocking Bee ».
« À moins que... vous vouliez vraiment qu'on arrête, Sai ?»
Eisenhart adressa un regard à Roland, qui vit Jake debout juste derrière Benny, attendant impatiemment sa chance de se briser le cou. Jake portait lui aussi une salopette, appartenant sans doute à son nouvel ami, et la vision des deux garçons fit sourire Roland. Jake n'était pas le genre de garçon qu'on imaginait dans ce type de tenue.
« Ça m'est totalement égal, si c'est ce que vous désirez savoir, » dit Roland.
« Hardy, alors !» s'écria le rancher avant de concentrer son attention sur les éclats de quincaillerie éparpillés sur le plancher.
« Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'un d'entre eux au moins pourra tirer ?»
Eisenhart avait sorti 3 de ses armes, attendant l'inspection de Roland. La meilleure était une carabine que le rancher avait apportée en ville le soir du conseil convoqué par Tian Jaffords. Les 2 autres étaient des pistolets de ce qu'enfant Roland et ses amis appelaient des canonniers à cause de leurs barillets surdimensionnés, qu'il fallait faire tourner avec toute la paume après chaque coup. Roland commença par démonter les armes sans aucun commentaire. Une fois encore, il avait sorti son huile, mais l'avait versée dans un bol au lieu d'une soucoupe.
« J'ai demandé... Je vous ai entendu, Sai, » dit Roland. « Votre carabine est parmi ce que j'ai vu de mieux de ce côté de la grande ville. Quant au canonnier, » il secoua la tête, « celui-ci, avec le plaquage en nickel, il tirera peut-être. L'autre, vous pouvez aussi bien le planter dans la terre. Peut-être qu'il fera des feuilles. »«
Je déteste avoir à entendre ça, » fit Eisenhart.
« Ils me viennent de mon pas, qui le tenait de son pas, et ce sur un paquet de générations. » Il leva 7 doigts et son pouce. « Ça remonte à avant les loups, vous intuitez ?»«
Jamais séparés, toujours légués par testament au fils le plus capable. » »«
Quand je l'ai reçu à la place de mon frère aîné, j'étais fier, je peux vous le dire. » »«
Vous aviez un jumeau ?» demanda Roland.
« Si fait. » Une jumelle. Verna.
Il avait le sourire fréquent et facile, mais, sous ses épaisses moustaches grisonnantes, son sourire était empreint de douleur. C'était le sourire d'un homme qui ne veut pas qu'on sache qu'il saigne, quelque part sous ses vêtements.
Elle était belle comme le jour, ça oui. Elle a disparu il y a 10 ans au moins. Elle est partie très tôt. Comme il arrive parfois au crâné.
Je suis désolé.
Grand merci à vous.
Le soleil déclinait au sud-ouest dans un halo rouge, jetant sur la cour un voile de sang. Sous la véranda étaient alignées des chaises à bascule, et Eisenhart était installé sur l'une d'elles. Roland était assis en tailleur sur le plancher à nettoyer l'héritage du rancher. Le fait que ses pistolets ne feraient sans doute jamais feu n'avait aucun sens pour les mains du pistolero, entraîné depuis des lustres à cet exercice qui les apaisait toujours. À présent, avec une célérité qui fit cligner le rancher des yeux, Roland assembla de nouveau les armes en une série rapide de clics et de claques. Il les mit de côté sur un carré de peau de mouton, s'essuya les doigts sur un chiffon et alla s'asseoir dans le fauteuil voisin de celui d'Eisenhart. Il se dit que, par des soirées plus ordinaires, Eisenhart et sa femme devaient passer un moment ici, assis côte à côte, à regarder le soleil abandonner le jour. Roland fourragea dans son sac en quête de sa blague à tabac, la trouva et se roula une cigarette avec le tabac frais et doux de Callahan. Rosalita y avait ajouté un cadeau personnel, un petit paquet de spats de maïs qu'elle appelait des presses. Roland les trouvait aussi bonnes que n'importe quel papier à cigarette, et il prit le temps de contempler le produit fini avant d'en approcher le bout de l'allumette qu'Eisenhart avait allumée d'un ongle de son pouce calleux. Le pistolero tira profondément sur sa cigarette, puis exhala un panache de fumée qui s'éleva lentement dans l'air du soir, un air immobile et étrangement moite pour une fin d'été. « C'est bon, » dit-il en hochant la tête. « C'est fait ?»« Grand bien vous fasse. Personnellement, je n'ai jamais aimé ça. » La grange était bien plus grande que la maison d'habitation, au moins 50 mètres de long et 15 mètres de haut. La façade était ornée d'amulettes de la moisson, en l'honneur de la saison. Des pantins avec d'énormes têtes en vives raves montaient la garde. Au-dessus de l'ouverture du fenil, surplombant la porte principale, la poutre centrale saillait, une corde enroulée à son extrémité. En dessous, dans la cour, les garçons avaient fait une grosse meule de foin. Otte se tenait d'un côté, Andy de l'autre. Il levait la tête en direction de Benny Slateman. Ce dernier attrapa la corde, tira dessus d'un petit coup sec, puis recula dans la grange, disparaissant de leur champ visuel. Fou d'impatience, Otte se mit à aboyer. Une seconde plus tard, Benny déboula à toutes jambes, la corde bien serrée dans les mains, ses cheveux volant dans son cou.
« Gilead et Arthur l'aîné »
cria-t-il, et il sauta. Il se balança dans le crépuscule rougeoyant, son ombre derrière lui.
« Ben, Ben !»
aboya Otte.
« Ben, Ben, Ben !»
Le garçon lâcha la corde, vola dans le foin, disparut, puis jaillit comme un diable de sa boîte, hilar. Andy lui tendit une main métallique que Benny refusa, préférant s'affaler sur la terre dure. Otte se mit à tourner autour de lui en aboyant. « Est-ce que c'est le cri qu'il pousse toujours quand il joue ?» demanda Roland. Eisenhart eut un rire nasal. « Pas du tout. En général, ils invoquent Oritza ou l'homme Jésus, ou bien c'est Gloire à la Kala, ou même les trois à la fois. Votre garçon a truffé la tête de Benny de ses contes, il me semble. » Roland choisit d'ignorer la note quelque peu désapprobatrice dans la voix d'Eisenhart et regarda Jake remonter la corde. Benny resta allongé sur le sol, faisant le mort, attendant qu'Otte vienne lui lécher le visage. Puis il se rassit en gloussant. Roland ne doutait pas une seconde que si le garçon avait dévié de sa trajectoire, Andy l'aurait rattrapé. Sur le côté de la grange attendait une rémouda de chevaux de trait, une vingtaine en tout. Un trio de cow-boys en jambières de cuir et bottillonnes ramenait la dernière demi-douzaine de montures vers le groupe. À l'autre bout de la cour se trouvait un enclos d'abattage, rempli de bœufs. Dans les semaines à venir, ils seraient mis à mort et descendraient la rivière sur les bateaux de commerce. Jake recula dans la grange, puis déboula à son tour.
« New York !» cria-t-il. « Times Square, l'Empire State Building, les tours jumelles, la statue de la liberté !»
Et il se lança dans le vide, plongeant au bout de la corde. Ils le virent disparaître en riant dans la meule de foin.
« Il y avait une raison particulière dans le fait d'envoyer les deux autres chez les Jaffers ?» demanda Eisenhart. Il parlait d'un ton détaché, mais Roland sentit que cette question l'intéressait au plus haut point.
« Il vaut mieux que l'on se disperse, que l'on se montre le plus possible. On manque de temps. Il faut prendre des décisions. » Ce qui était la pure vérité. Mais il ne disait pas tout et Eisenhart devait s'en douter. Il était plus perspicace qu'Overholser. Il était aussi fermement opposé à l'idée de tenir tête au loup, jusqu'ici du moins. Ce qui n'empêchait pas Roland d'apprécier le bonhomme, carré d'épaules, honnête et doté d'un solide sens de l'humour paysan. Roland croyait qu'il pourrait se rallier à leur camp, à condition qu'on lui montrât qu'ils avaient de vraies chances de l'emporter. Sur le trajet qui les avait menés au Rocking Bee, ils avaient croisé une demi-douzaine de petites exploitations le long du fleuve où le riz était la culture principale. Eisenhart s'était prêté d'assez bon cœur au jeu des présentations. À chaque arrêt, Roland répétait les deux questions qu'il avait posées la veille au pavillon. « Nous ouvrirez-vous votre cœur comme nous vous ouvrons le nôtre ? Nous considérez-vous pour ce que nous sommes et acceptez-vous ce que nous faisons ?» Tous avaient répondu oui. Eisenhart également. Mais Roland était trop avisé pour poser la troisième question. Ce n'était pas la peine. Pas encore. Il leur restait encore plus de 3 semaines.
« Nous perdurons, pistolero, » dit Eisenhart. « En dépit des loups, nous perdurons. Autrefois, il y avait Gilead, et Gilead a disparu, vous le savez mieux que personne. Et nous perdurons. » Si on tient tête au loup, tout ça pourrait bien changer. Pour vous et les vôtres, peu importe ce qui peut bien se passer sur le croissant, c'est comme si on pissait dans un violon. Si vous gagnez et que vous survivez, vous reprendrez la route. Si vous perdez et que vous mourrez, on n'aura nulle part où aller. Mais Eisenhart leva la main. « Entendez-moi, je vous prie. Vous voulez bien ?»
Roland hocha la tête avec résignation. Pour lui, il n'y avait sans doute pas mieux que la discussion. Plus loin, les garçons rentraient en courant dans la grange, se préparant à un nouveau saut. Bientôt, l'obscurité viendrait mettre un terme à leur jeu. Le pistolero se demandait comment s'en sortaient Eddie et Susanna. Avait-il pu parler au grand-père de Tian? Et si tel était le cas, leur avait-il révélé des renseignements utiles?
Supposez qu'ils en envoient 50 ou 60, comme ils l'ont déjà fait, maintes et maintes fois. Et supposez qu'on les écrase.
Et alors, supposez qu'une semaine ou un mois plus tard, après votre départ, ils nous en envoient 500.
Roland réfléchit à la question. C'est alors que Margaret Eisenhart se joignit à eux. C'était une femme mince, la quarantaine, avec une petite poitrine, vêtue d'un jean et d'une chemise de soie grise. Ses cheveux noirs tirés en arrière en chignon sur la nuque étaient striés de blanc. Une de ses mains disparaissait sous son tablier.
« C'est une bonne question, dit-elle, mais c'est peut-être pas le bon moment pour la poser. Donnez-leur une semaine à lui et à ses amis pour qu'ils jettent un œil aux alentours et qu'ils voient ce qu'il y a à voir. »
Eisenhart adressa à sa saille un regard mi-amusé et mi-irrité.
« Est-ce que je te dis comment mener ta cuisine, femme ? Qu'en faire à manger et qu'en faire la lessive ?»«
Seulement 4 fois par semaine, » fit-elle.
Puis, voyant que Roland se levait pour libérer le siège près de celui de son mari, elle lui dit
« Ne bougez pas, je vous en prie. » Je suis restée assise pendant des heures à éplucher des vivraves avec Edna, la tante de ce jeune homme, dit-elle en désignant Benny d'un signe de tête.
« T'as fait du bien d'être debout. »
Elle sourit en voyant les garçons voler dans la botte de foin avec Otte qui tournait autour d'eux en aboyant.
Vaughn et moi, nous n'avons jamais eu à affronter cette horreur de face jusqu'ici, Roland. Nous avions 6 enfants, tous des jumeaux, mais ils avaient tous grandi dans l'intervalle. Aussi n'avons-nous peut-être pas toutes les cartes en main pour prendre la décision que vous demandez.
« Avoir de la chance ne rend pas stupide, » fit Eisenhart.
« Au contraire, voilà ce que je pense. Un regard froid porte plus loin.
Peut-être, répondit-elle en regardant les garçons rentrer dans la grange en courant.
Ils se donnaient des coups d'épaule en riant, faisant la course pour arriver à l'échelle en premier.
Peut-être, si fait, mais le cœur doit défendre ses droits lui aussi. Et celui qui n'écoute pas est un idiot. Parfois, il vaut mieux plonger au bout de la corde, même s'il fait noir et qu'on ne sait pas s'il y a une meule de foin en dessous.
Roland lui toucha la main. « Je n'aurais pas dit mieux moi-même. » Elle lui adressa un petit sourire distrait. Au bout de quelques secondes, son attention se reporta sur les garçons, mais Roland eut le temps de voir qu'elle avait peur. Qu'elle était terrifiée, pour tout dire.
« Ben ! Jake ! » appela-t-elle. « Ça suffit ! Il est temps de vous laver de rentrer !» Il y a de la tarte pour ceux qui en voudront, avec de la crème à mettre dessus.
Benny apparut à l'entrée du fenil.
Mon père a dit qu'on pouvait dormir dans ma tente sur le promontoire, Sai, si vous êtes d'accord.
Margaret Eisenhart jeta un œil vers son mari. Ce dernier acquiesça.
D'accord, répondit-elle. Va pour la tente, amusez-vous bien. Mais en attendant, venez prendre une part de tarte. Dernier appel. Et commencez par vous laver. Les mains et le visage. Si fait, grand merci, dit Benny. Est-ce que Otto peut en avoir aussi?
Margaret Eisenhart se frappa le front du plat de la main gauche, comme si elle avait une migraine subite. Roland fut surpris de constater que la droite demeurait sous son tablier.
« Si fait, dit-elle, de la tarte pour le bafouilleux aussi, vu que je suis sûr qu'en réalité, c'est Arthur l'aîné déguisé et qu'il me récompensera en bijoux et en or et avec le don de guérison. »« Grand merci, Sai, lança Jake. « On peut juste ressauter une fois avant, on sera plus vite en bas. » « S'ils ne volent pas droit, je les rattraperai, Margaret Sai, dit Andy. »
Ses yeux lancèrent des éclairs bleus, puis s'éteignirent. Il avait l'air de sourire. Pour Roland, ce robot avait deux personnalités. L'une, un peu vieille fille, l'autre, inoffensive et causeuse. Le pistolero n'aimait aucune des deux, et il comprenait parfaitement pourquoi. Il en était venu à se méfier des machines, de toutes les machines, mais plus particulièrement de celles qui parlaient et qui marchaient.
« Bien, » fit Eisenhart. « C'est en général à la dernière cabriole qu'on se casse une jambe, mais allez-y s'il le faut. »
Ils sautèrent et il n'y eut pas de jambe cassée. Les deux garçons atterrirent bien au milieu du tas de foin, en ressortirent en riant, puis ils échangèrent un regard et se précipitèrent vers la cuisine, Otto courant entre eux comme pour rassembler son troupeau.
« C'est merveilleux de voir à quelle vitesse les enfants se font des amis, » dit Margaret Eisenhart. Mais elle n'avait pas l'expression de quelqu'un qui assiste à un spectacle merveilleux. Elle avait l'air triste.
« Oui, » acquiesça Roland. « C'est merveilleux, en effet. » Il posa son petit sac sur ses genoux, sembla sur le point de tirer sur le nœud qui retenait les cordons, puis se ravisa.
« Avec quelle arme vos hommes se défendent-ils » demanda-t-il à Eisenhart.
« Le bolt ou le bar ? Parce que j'imagine que ce n'est ni à la carabine ni au pistolet. »«
Nous avons une préférence pour le bar, » répondit le rancher. « On ajuste le bolt, on l'enroule, on vise, on tire et le tour est joué. »
Roland acquiesça, c'était bien ce qu'il pensait. Pas encourageant, sachant que le bar n'était pas précis au-delà de 25 mètres et encore sans vent. Partant de brise, voire de bourrasque. Grand Dieu! Mais Eisenhart observait sa femme. Il l'observait avec une sorte d'admiration réticente. Elle se tenait là, haussant les sourcils, retournant son regard à son homme, lui retournant sa question.
Quelle question?
C'était sans doute lié au manège de la main sous le tablier.
Hardy! Dis-lui!
Sur ces paroles, Eisenhart pointa vers Roland, un doigt presque furieux comme le canon d'un pistolet.
« Mais ça change rien, rien du tout, grand merci !»
Il avait lâché la dernière expression avec la lèvre supérieure retroussée en un rictus féroce. Roland se trouva plus décontenancé que jamais. Pourtant, il vit une petite lueur d'espoir. Un faux espoir, peut-être, sûrement même. Mais tout valait mieux que les inquiétudes, la confusion et les douleurs qui l'avaient assailli ces derniers temps.
« Non pas, fit Margaret avec une timidité exaspérante. Ce n'est pas à moi de le dire. Le montrer passe encore, mais pas le dire. »
Eisenhart soupira, réfléchit quelques instants, puis se tourna vers Roland. « Vous avez fait la danse du riz. Alors vous connaissez Dame Horitza. » Roland acquiesça. La Dame du riz, considérée en certains lieux comme une déesse, en d'autres comme une héroïne, parfois comme les deux.
Et vous savez comment elle s'est débarrassée de Grey Dick, qui a tué son père ?
Roland hocha de nouveau la tête. 2. Selon la légende, une bonne histoire qu'il se promit de raconter à Eddie, Susanna et Jake quand ou si il aurait de nouveau l'occasion de leur raconter des histoires, Dame Horitza invita Grey Dick, un illustre prince hors la loi, à un grand banquet à Whedon, son château près du fleuve Sand. Elle voulait par ce geste lui exprimer qu'elle lui pardonnait le meurtre de son père, car elle avait ouvert son cœur à l'homme Jésus et voulait se comporter selon ses enseignements. « Vous m'attirerez chez vous et vous me tuerez si je suis assez saoul pour venir, » répondit Grey Dick. « Que nenni, » dit Dame Horitza. « Ne crois surtout pas cela. Toutes les armes seront laissées à l'extérieur du château, et lorsque nous prendrons place à la table du banquet, il n'y aura que moi à un bout et toi à l'autre. Tu dissimuleras une dague dans ta manche ou un bolas sous ta robe, » dit Grey Dick. « Et si tu ne le fais pas, alors je le ferai. » « Que nenni, » dit Dame Horitza, « ne crois surtout pas cela, car nous serons tous deux nus. » À cette nouvelle, Grey Dick fut envahi par le désir, car Dame Horitza était belle femme. Il était excité à la perspective de voir sa bite se dresser à la vue de ses seins nus et de sa chatte sans culotte pour camoufler cette flamme à ses yeux de vierge. Il crut comprendre pourquoi elle lui faisait cette offre. « C'est son cœur hautain qui le perdra, » dit Dame Horitza à sa suivante, qui s'appelait Marianne, et qui connut elle-même maintes aventures fantaisistes par la suite. La dame avait raison. « J'ai tué Messire Grenfell, le seigneur le plus rusé de toutes les baronnies du fleuve, » se dit Grey Dick. « Et qui d'autre reste-t-il pour le venger qu'une faible fille ? Oh, mais quelle belle fille ! Ainsi elle demande la paix, peut-être même le mariage, si en plus de la beauté, elle est dotée d'audace et d'imagination. » Aussi accepta-t-il son offre. Avant son arrivée, ses hommes fouillèrent la salle de banquet de fond en comble. Ils ne trouvèrent aucune arme, ni sur la table, ni sous la table, ni derrière les tapisseries. Ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait savoir, c'est que depuis des semaines, Lady Horitza s'entraînait à lancer une assiette lestée d'un poids bien précis. Elle faisait cela plusieurs heures par jour. Elle avait déjà une constitution athlétique et de très bons yeux. En outre, elle haïssait Grey Dick de tout son cœur, et elle était déterminée à le faire payer, et ce, à n'importe quel prix. L'assiette n'était pas seulement lestée, mais le bord en avait été affûté. Les hommes de Dick ne remarquèrent pas ce détail, comme elle et Marianne l'avaient prévu. Aussi firent-ils ripaille, et quel étrange banquet ce dut être, avec à l'un des bouts de table le bel usurpateur nu et riant, et à l'autre, distante de 10 mètres, la jeune fille au sourire modeste, mais à la beauté exquise, nue elle aussi. Ils burent à la santé l'un de l'autre avec le meilleur vin rouge de Messire Grenfell. Voir son hôte avaler ce délicieux vin de pays comme s'il s'agissait d'eau mit la dame dans un état de fureur indescriptible, tout comme de voir les gouttes écarlates rouler le long de son menton et éclabousser son torse velu, mais elle n'en montra rien. Elle se contenta de sourire avec coquetterie et de siroter son propre verre de vin. Elle sentait le poids de son regard sur ses seins. C'était comme si des insectes répugnants allaient et venaient sur sa peau. Combien de temps dura cette comédie? Certains conteurs rapportent qu'elle mit fin au jour de Grey Dick après le second toast, son toast à lui, « Que votre beauté aille toujours croissant », son toast à elle, « que ton premier jour en enfer dure 10 000 ans et qu'il soit le plus court de tous. D'autres, de ceux qui aiment à faire durer le suspense, décrivent par le menu les 12 plats qui furent servis avant que Dame Horitza ne s'empare de l'assiette, qu'elle la retourne, cherchant où la gripper sans se blesser, sans cesser de regarder Grey Dick dans les yeux et de lui sourire. Peu importe la longueur du récit, la fin est toujours la même. Dame Horitza lance l'assiette. De petits sillons avaient été taillés dessous, près du bord affûté, pour lui assurer une trajectoire droite. Et sa trajectoire fut splendide, accompagnée d'un étrange sifflement dans l'air et de l'ombre flottante projetée sur le porc et la dinde rôtie, sur les plats de légumes empilés et sur les pyramides de fruits frais dressés sur des plats en cristal. Elle lança l'assiette, qui s'éleva en un arc léger. Elle avait encore le bras tendu, l'index et le pouce repliés, pointés vers l'assassin de son père, lorsque la tête de Grey Dick vola à travers la porte, roulant dans le vestibule derrière lui. Son corps resta debout quelques instants, son pénis tendu vers elle comme un doigt accusateur. Puis son sexe se ratatina, et Dick Latrick s'effondra vers l'avant sur un gigantesque rôti de bœuf et une montagne de riz parfumée aux herbes. Dame Horitza, que dans ses pérégrinations ultérieures, Roland entendrait parfois appeler la dame à l'assiette, leva son verre et but à la santé du cadavre. Elle dit... 3. Que ton premier jour en enfer dure 10 000 ans, murmura Roland. Margaret acquiesça. Si fait, mais qu'il soit le plus court de tous. C'est là une phrase terrible, mais que j'aimerais la lancer au loup, à chacun d'entre eux, jusqu'au dernier. Sa main apparente se crispa. Dans la lumière rouge et déclinante, elle paraissait fébrile et malade. Nous avions 6 enfants, savez-vous? Une demi-douzaine tout ronds. Vous a-t-il dit pourquoi aucun d'eux n'est ici à aider à préparer le parcage et l'abattage de la moisson? Vous l'a-t-il dit, pistolero ? Margaret, ce n'est pas la peine, l'interrompit Eisenhart en remuant sur sa chaise mal à l'aise. Ah, mais il se pourrait bien que si. On en revient à ce qu'on disait auparavant. Peut-être qu'il faut payer le prix quand on saute dans le vide, mais parfois on paie encore plus cher en regardant en bas. Nos enfants ont grandi dans la liberté et la tranquillité, sans loup dans les parages. J'ai mis au monde mes 2 premiers, Tom et Tessa, 1 mois avant leur dernière visite. Les autres ont suivi, coup sur coup, se ressemblant comme 2 gouttes d'eau. Les plus jeunes n'ont que 15 ans, voyez ? Margaret, elle l'ignora, mais ils n'auraient pas eu cette chance avec leurs propres enfants, et ils le savaient. Alors ils sont partis. Certains au nord, le long de l'arc, d'autres au sud, à la recherche d'un endroit où les loups ne viendraient pas. Elle se tourna vers Eisenhart, et bien que s'adressant à Roland, c'est son mari qu'elle regardait dans les yeux. « 1 sur 2, c'est le butin des loups. C'est ce qu'ils prennent tous les 20 et quelques années depuis bien bien long. Sauf chez nous. Nous, ce sont tous nos enfants qu'ils ont pris. Tous nos enfants, épla-t-elle. » Elle se pencha vers l'avant et donna une tape vigoureuse sur la jambe de Roland, juste au-dessus du genou. « Vois donc !» Le silence s'abattit sur la galerie. Dans leur enclos, les bouvillons condamnés poussèrent un meuglement idiot. De la cuisine monta le rire d'un garçon en réponse à un commentaire d'Andy. Eisenhart avait la tête baissée. Roland ne voyait plus que ses grosses moustaches broussailleuses, mais il n'avait pas besoin de voir le visage de l'homme pour savoir que ce dernier pleurait, ou bien luttait de toutes ses forces pour ne pas pleurer.
« Mon vœu n'est pas de te faire mal, pas pour tout le riz de l'arc, » dit-elle en caressant l'épaule de son mari avec une tendresse infinie. « Et ils reviennent promptement, si fait, ce qui est plus que les morts peuvent faire, sauf dans nos rêves. » Ils sont trop jeunes pour que leur mère ne leur manque pas ou pour en avoir fini avec les « dis papa, comment on fait ?»
Mais ils sont partis. On n'y peut rien.
Et c'est le prix de la sécurité, comme vous l'intuitez sans doute.
Elle baissa un instant les yeux vers Eisenhart, posa une main sur son épaule, gardant la deuxième sous son tablier.
« Maintenant, dis combien tu m'en veux, dit-elle, que je puisse le savoir. »
Eisenhart secoua la tête.
« Je ne t'en veux pas, répondit-il d'une voix étouffée.
« Est-ce que tu as changé d'avis ? »
Eisenhart secoua de nouveau la tête.
« Espèce de vieux têtu, dit-elle, mais avec une affection joviale. « Têtu comme une mule, si fait !
Et nous le disons tous grand merci !» J'y réfléchis, fit-il, toujours sans lever la tête. « J'y réfléchis !» Et je ne croyais pas en être encore là à une date aussi avancée. En général, je me décide, un point c'est tout.
Roland, j'ai cru comprendre que le jeune Jake a fait une démonstration de tir à Overholser et aux autres dans les bois. Peut-être que nous pourrions à notre tour vous montrer quelque chose qui vous surprendrait. Maggie, va chercher ton Oritza.
Pas la peine, dit-elle.
Retirant enfin la main de sous son tablier.
Je l'ai apporté, le voici.